à la 5e édition du congrès virtuel de l'EFT. Je suis Marie-Annelle, votre hôtesse ce soir, et avant de commencer, je voudrais vous avertir qu'en écoutant cette conférence ou son enregistrement, vous acceptez d'être responsable de votre bien-être personnel. L'EFT est un outil à la fois simple et très puissant, dont les résultats varient naturellement d'une personne à l'autre. Les témoignages avancés lors de cette conférence ne constituent pas une garantie que vous aurez les mêmes résultats pour vous. Consultez toujours votre médecin traitant ou un spécialiste en cas de problème médical dans son domaine de compétence. Cette année, sur le congrès virtuel EFT, nous avons beaucoup de nouveaux arrivants, des personnes qui ne connaissent pas ou très peu l'EFT. L'EFT peut être présenté de bien des façons, mais pour faire simple, disons que c'est tout d'abord une technique de gestion de stress. Gary Craig, son fondateur, nous dit « Essayez-le surtout ». Oui, d'accord, mais comment faire? Internet offre des vidéos et des articles de toutes sortes et il n'est pas toujours facile de tout saisir correctement car les bases de cette technique sont noyées au milieu d'un flot d'informations qui semble parfois se contredire. La conférence de ce soir va vous permettre d'avoir les principales clés pour commencer à appliquer l'EFT en autotraitement et de mettre un peu d'ordre dans les informations que vous avez peut-être pu glaner sur le net. Notre conférencière de ce soir est une spécialiste de EFT. Elle le pratique depuis plus de 10 ans dans son cabinet et elle enseigne dans son centre de formation à des centaines de personnes chaque année. Sa compétence et ses qualités professionnelles, son sens de l'humour et son authenticité font d'elle une formatrice très appréciée. Et depuis maintenant 4 ans, j'ai la chance et le privilège de l'avoir comme copilote et associée dans cette aventure de congrès virtuel EFT. Alors, c'est un grand plaisir de commencer cette 5e édition en compagnie de Noël Castan. Bienvenue Noël.
Bienvenue Maria.
Bonsoir. Je suis ravie d'être là.
Bienvenue chez nous.
Je suis vraiment très heureuse d'ouvrir ce 5e congrès EFT. Et dans cette première conférence, je vais reprendre les bases de l'EFT et expliquer aux auditeurs comment le pratiquer seul. Cette conférence n'a bien sûr pas la prétention d'être un cours sur l'EFT, mais de donner quelques clés pour pouvoir commencer seul à la maison. Bien sûr, même si cette technique est simple à mettre en application, un enfant peut l'apprendre. Et même si cette conférence donnera quelques clés, j'engage les auditeurs à apprendre l'EFT plus en détail. C'est passionnant, c'est vraiment une technique exceptionnelle. Aujourd'hui, il existe de très bons livres en français sur ce sujet et puis, bien sûr, des stages et des ateliers d'apprentissage. Et la vidéo de témoignage d'Agnès, qui se trouve dans la partie vidéo et qui a pratiqué l'EFT toute seule, s'est libérée de migraines qu'elle avait depuis plus de 10 ans et ça nous montre bien l'efficacité de cette technique en auto-traitement.
Oui, ça fait partie des témoignages en 2014, l'année dernière.
Et c'est vraiment une séance qu'elle s'est faite toute seule. Oui. Il est vrai qu'elle avait participé à un EFT 1, donc elle avait vraiment juste appris les bases. Et très belle séance qu'elle a pu se faire. Il est démontré que lorsqu'on traverse un état dépressif, une heure de marche peut s'avérer aussi efficace qu'un antidépresseur. Malheureusement, l'expérience montre que le patient prendra plus volontiers son traitement qui ne marchera qu'une heure par jour. Et pourtant, marcher, c'est simple, facile, gratuit et efficace. Pourquoi je vous raconte ça? Parce que l'EFT, c'est un peu la même chose. Le plus difficile, c'est pas ce qu'il y a à mettre en œuvre. On tapote sur 15 points en répétant une phrase qui est, somme toute, assez simple à trouver. Mais c'est de passer à l'action et de le faire. Et dans ce même temps, je tiens à rappeler que l'EFT ne permet pas de remplacer un psychologue, un psychiatre ou un psychothérapeute en cas de pathologie, ni d'être dispensé d'un avis médical. Et d'ailleurs, dans le cas des traumatismes très violents et répétés pendant l'enfance, l'utilisation de l'EFT seul n'est pas forcément recommandée.
Mais la chance, de nos jours, c'est que de plus en plus de psychologues, de psychiatres, de psychothérapeutes commencent à intégrer l'EFT en tant qu'outil.
Exactement.
L'un n'empêche plus l'autre.
Dans tous les cas, si les personnes ont un doute ou si la pratique de l'EFT ne semble pas leur convenir, le bon conseil de bon sens, c'est d'arrêter et d'aller voir quelqu'un de compétent pour vous accompagner. Ce soir, je vais parler de cette technique de façon simple, alors que c'est une technique délicate et subtile. Je ne vais pas avoir le temps d'aborder dans le temps imparti toutes les subtilités de l'EFT. et les spécialistes de l'EFT le remarqueront bien. Mais le but ce soir, c'est d'apporter des clés concrètes pour que les débutants puissent en commencer la pratique à un tout traitement. Et une heure, c'est assez court. Et l'EFT ne se résume pas à quelques tapotements de temps en temps en répétant une phrase, mais c'est déjà bien de faire ça et ça peut amener de bons résultats. L'EFT se pratique avec soit un praticien, soit un groupe, soit tout seul. Et c'est de cette dernière partie que je vais développer ce soir.
Alors, est-ce que tout d'abord, tu peux rappeler les bases de l'EFT, Noël?
Avec grand plaisir, Maria. Les trois piliers de l'EFT, stimuler les points. On va stimuler des points spécifiques sur le corps. On va rester centré sur le problème. On va travailler sur une cible très précisément. Et il y a la notion de l'acceptation de soi. Donc, stimuler les points spécifiques, ce sont des points qui ont été décrits, on les a mis dans le kit d'initiation, et j'invite les gens à bien repérer où ils sont. Ils sont au nombre de 15, ils sont très faciles à retenir. Être centré sur le problème, c'est-à-dire que pendant qu'on stimule ces points sur le corps, il va être nécessaire d'être centré sur un problème. Et pour ce faire, on utilise la phrase dite de rappel, qui permet d'évoquer le problème et de rester centré dessus. Dire cette phrase, c'est important pour ça, être centré sur le problème. Ensuite, travailler sur une cible précise, plus on est précis en EFT et plus ça marche. Donc, on va aller précisément et en détail sur ce qu'il y a dans la problématique et à partir de là, on aura le plus d'efficacité. La partie acceptation de soi, la phrase d'installation, la première phrase qu'on dit, elle est construite sous cette forme-là. Même si, et on nomme le problème, je m'accepte complètement. Et ça, ça a toute son importance. L'acceptation de soi, malgré les problèmes rencontrés, permet d'ouvrir tout un champ de libération. On peut mettre l'EFT en œuvre avec différentes techniques, comme la technique de raconter l'histoire. On aborde ça dans les stages d'EFT. Il y a la technique de raconter l'histoire, la technique du film, la technique du trauma sans larmes, la méthode de choix, le processus de paix personnelle, les SI, et encore d'autres choses. Donc, nos éditeurs, vous pouvez apprendre tout ça auprès d'un formateur ou bien même commencer avec un livre. Il y a des livres qui décrivent très bien ces pratiques-là. Et ça vous permettra de mieux comprendre et de mieux pratiquer, mais de ne pas connaître tout ça n'empêche pas de commencer la pratique. Il vaut mieux faire des choses simples que de ne pas en faire du tout. En fait, j'aime bien dire que c'est comme la peinture. Vous pouvez commencer à acheter des pinceaux et de la peinture et du papier et commencer à peindre. Et puis un jour, l'envie ou la nécessité se présentera de prendre des cours et d'apprendre plus de techniques afin d'aller plus loin. Alors, comparé à d'autres méthodes d'auto-soin, l'EFT reste quand même une des méthodes les plus efficaces et aussi les plus simples à mettre en œuvre. N'importe qui peut l'apprendre et la mettre en pratique. Bon, notez tout de même au passage que je dis bien qu'il faut l'apprendre.
Mais contrairement à l'acupuncture, par exemple, entre deux séances d'acupuncture, on ne va pas aller se poser des aiguilles toute seule à la maison.
C'est
alors qu'entre deux séances d'EFT, on peut faire des sessions d'autotraitement.
Exactement. Et d'ailleurs, quand je reçois des personnes en cabinet, entre deux séances, je les invite vraiment à pratiquer seules chez eux. Je leur donne une fiche, je leur donne un kit d'initiation et je leur donne des indications assez précises pour eux. Et régulièrement, les clients me disent qu'ils n'ont pas réussi à en faire chez eux et voici les principales raisons qui les avancent.
Le palmarès,
celle qui est en tête, c'est « je n'ai pas eu le temps ». Ensuite, j'ai pas su faire les phrases. Enfin, les deux, je me demande laquelle rapporte le…
Oui, c'est ex-éco.
C'est serré. Je n'ai pas pensé. J'ai eu peur de me tromper. J'ai eu peur que mon état soit pire après l'avoir fait. J'ai eu peur de réveiller des choses terribles en moi. J'ai eu peur de mal faire et que ce soit pire. Les gens ont cette crainte d'empirer leur cas. Et il y a aussi, avec vous, ça a l'air facile, mais tout seul, j'ai pas su quoi dire ou quoi faire.
Oui. Vous savez trouver les phrases, mais moi, je sais pas faire.
C'est ça.
On l'entend assez souvent. Alors, en effet, l'EFT est souvent décrit comme un outil d'autotraitement qu'on peut utiliser seul chez soi et c'est quelque chose qui favorise l'autonomie. Est-ce que tu peux nous dire dans quel cadre il est particulièrement intéressant de l'utiliser pour soi?
Moi, je vois deux axes intéressants. C'est en cas d'urgence et pour faire un travail de fond. En cas d'urgence, ça permet de calmer une émotion, de pouvoir contenir un comportement, de se recentrer, de se centrer, de ne pas se laisser emporter par une émotion. Et puis, au niveau du travail de fond, ça va nous permettre de changer une croyance, de lever des blocages pour atteindre un objectif. Ça permet de faire la paix avec son passé, de transformer des schémas ou des croyances qui nous laissent comme sur des rails et toujours dans la même, sur des automatismes. Alors concrètement, les étapes de la pratique sont assez simples. On choisit un problème, on mesure l'intensité du problème sur une échelle de 0 à 10, selon l'inconfort qu'on ressent. On formule une affirmation de départ qu'on va tapoter sur le point karaté. On tapote ce point karaté en répétant l'affirmation de départ. On stimule ensuite tous les points de la séquence en répétant la phrase de rappel. Et quand on a terminé, on va mesurer à nouveau l'intensité de l'inconfort sur cette même échelle.
Et si nécessaire, on recommence.
Et si nécessaire, on recommence. Une autre façon de faire, quand on est en présence d'une émotion plus ou moins forte, est ce qu'on appelle le tapping continu. C'est une façon des plus simples à mettre en œuvre pour pratiquer l'EFT seul. Et cette façon de faire ne permet pas de traiter le problème en profondeur, mais au moins ça permet un meilleur confort de vie et de faire de l'EFT régulièrement.
Mmh. Oui, et ça peut enlever un stress sur le moment qui permet de mieux faire face à la situation qui est présente. Alors, comment ça fonctionne, ce tapping en continu? On peut en parler?
Alors, le tapping en continu, c'est vraiment très simple pour mettre en œuvre l'EFT en action. Et pour être encore plus concrète, je vais prendre un exemple. Imaginons que je décide d'appeler au téléphone un fournisseur. J'ai passé une commande et voici 10 jours que j'attends le colis. D'après ce qui était annoncé, je devais recevoir ce colis dans les 24 heures. Cette situation m'agace un peu et mon désir, dans les médias, est de rester le plus calme possible pendant cette entrevue téléphonique. Imaginons que j'ai déjà téléphoné la veille, disons vers 17 heures, et que bien sûr les horaires d'ouverture pour le public sont de 9h à 16h30.
Ah, dommage,
dommage. Donc nous sommes le lendemain, j'appelle. Je suis au téléphone et je tombe sur l'hôtesse d'accueil. Je lui expose mon problème, puis elle me dit « Ne quittez pas !» Je vous passe le service concerné. Bon, j'attends. Et puis au bout du fil, j'ai une autre personne. Je réexplique mon problème et cette personne me dit « La personne qui s'occupe de cela n'est pas là aujourd'hui. Je vous passe en collègue. » Ok, j'attends.
Mais je t'attends, t'attends.
Et voilà, je vois que tu connais Maria. Troisième personne. Au bout du fil, je réexplique mon problème. Et cette fois, la personne m'explique à nouveau que la personne qui s'occupe de mon dossier n'est pas là. Ça, je le savais. Et qu'elle va voir ce qu'elle peut faire. Je vous fais patienter un instant. Bon, j'attends. Au bout de 10 minutes, un quart d'heure, elle revient et me dit qu'elle n'a pas trouvé mon dossier. Gloups. Et qu'il me faudra rappeler. Et comme bien sûr nous sommes samedi, même, oui, on est vendredi, le samedi, le dimanche, c'est fermé. Donc il me faut rappeler lundi. Seulement voilà, moi lundi, j'ai vraiment pas la possibilité de rappeler. Donc ça sera mardi, ce qui reporte à 5 jours d'attente. Mais tu sais quoi, Maria, je sais pas toi, mais moi, ce genre d'événement, ça a vraiment l'art de me mettre les nerfs en pelote. Alors, pour rester calme et sereine, et le plus zen possible, j'utilise le tapping continu. C'est-à-dire que du début à la fin de la conversation téléphonique, et même avant de composer le numéro de téléphone, je commence à tapoter sur tous les points. Alors, je pars du point qui se situe sur le sommet de la tête, et je fais tous les points suivant l'ordre, y compris les points sur les doigts. Je stimule tous les points sans arrêt. Pendant que je discute avec cette personne, donc je n'ai pas à faire de phrase particulière, je tiens ma conversation avec la personne, j'attends, pendant que j'attends, je stimule ses points, et je reste en contact avec mes ressentis tout au long de cette conversation téléphonique et ce temps d'attente. Je peux observer ce qui se passe en moi, les différentes émotions et les pensées qui apparaissent. Et je suis juste en présence de moi-même et de mon interlocuteur, et je tapote ses points. C'est une façon d'utiliser l'EFT dans l'urgence, sans faire de phrase, sans aller vraiment au cœur du problème. Je suis déjà dans la problématique et cette problématique émotionnelle est là, elle est immédiate. je stimule tous les points pour garder ou remettre mon système énergétique en bon fonctionnement.
Mmh, pour qu'il reste fluide, qu'il y ait le moins de bouchons possible qui se forment.
C'est ça, ou les nœuds énergétiques, comme les disent les gens. En tout cas, Gary Craig, tu le sais, Maria, nous dit ceci, toute émotion négative, il faut comprendre inconfortable dans le terme de émotion négative, toute émotion inconfortable est due à une perturbation dans le système énergétique corporel. Donc, dans la situation où je suis dans cette perturbation énergétique, je stimule tous les points en continu, sans l'intention de garder ou de remettre, avec l'intention de garder mon système énergétique fluide, comme tu dis, en bon fonctionnement. Une autre façon de mettre en œuvre l'EFT, c'est aussi de faire une routine quotidienne sans que ça prenne beaucoup de temps. Et pourtant, j'entends souvent les personnes dire « je voudrais bien, mais j'ai pas le temps ». Alors, j'imagine quand même que très peu de gens diraient « ça fait 15 jours que je ne me suis pas brossé les dents, mais j'ai une bonne excuse, j'ai une bonne raison pour ça, c'est que j'ai pas eu le temps ».
Oui, effectivement, j'ai pas souvent entendu cette remarque. À la limite, peut-être qu'ils n'ont pas envie d'en parler. Alors, avant d'aborder cette routine quotidienne, est-ce que tu peux nous donner d'autres occasions où l'EFT en continu peut être utile?
Alors, c'est tous les endroits où je vais me retrouver avec une émotion immédiate qui peut me déborder. Donc, comme je viens de l'évoquer, je suis au téléphone, la discussion commence à m'énerver, je ressens des émotions fortes, ou j'apprends une mauvaise nouvelle, je vais être dans la tristesse, ou je vais être juste agacée. Je dois prendre un ascenseur minuscule et puis je vais ressentir une appréhension. Je dois faire une prise de sang et la vue de l'aiguille me stresse. Sur le fauteuil du dentiste, je commence à m'impatienter, les soins sont longs, je peux commencer à souffrir un peu. Alors chez le dentiste, les points que sur les doigts, c'est extrêmement efficace. Bien sûr, on va pas les se tapoter sur le visage en gênant le dentiste, mais vraiment que les points sur les doigts, ça peut être très chouette. J'ai rendez-vous avec quelqu'un et cette personne est très en retard, je commence à m'énerver. Je me retrouve dans une situation où le sentiment de peur commence à pointer. Je peux assister à, je sais pas, un éclat de voix, ça me stresse, ça me met inconfortable. Et je vais juste me centrer sur ce qui se passe dans l'instant, je vais juste observer et je vais faire le tapping continu.
D'accord, donc ça c'est plutôt en cas d'urgence.
En cas d'urgence. Alors, continuons, Maria, avec l'exemple du monsieur-là, le fournisseur que je voulais avoir au téléphone. Une fois que j'ai raccroché le téléphone, donc j'ai fait mon tapping continu pendant cet appel, mais une fois que je raccroche, je suis dans un certain état émotionnel. Donc là, je peux prendre quelques minutes pour faire un travail un peu plus en profondeur. Et là, je vais donner quelques clés pour pouvoir trouver les fameuses phrases et pour pouvoir faire ce travail un peu plus en profondeur et tout seul. Donc, je viens de raccrocher mon téléphone et là, je vais rester connectée à l'événement. Je vais prendre dans ma tête une image qui va représenter la situation.
Ou là, comme c'était une conversation, peut-être une phrase.
Quand
la troisième personne a dit « il va falloir rappeler l'année, madame ».
Voilà, c'est ce que j'ai entendu. Ou ça peut être aussi une image qui va bien résumer le moment que je viens de vivre. Et là, je me demande, qu'est-ce que je ressens dans mon corps? Et où se trouve cette sensation dans mon corps? Quelle émotion je suis en train de ressentir? Ou quelles sont les émotions que je suis en train de ressentir?
Il peut y en avoir plusieurs.
Il peut y avoir plusieurs émotions. Dans ce cas, s'il y a plusieurs émotions, on va calibrer chacune. Quelles sont mes pensées à ce moment précis? Qu'est-ce que je suis en train de me dire? Je reste centrée sur mon ressenti, émotion, ressenti corporel, et je laisse mon dialogue interne se dérouler tout seul. Juste, je l'observe. De toute façon, mon dialogue interne se déroule tout seul.
Il est en train de se dérouler.
C'est ce qu'il est en train de faire. Alors, pour bien saisir ce qui se passe, il est préférable de noter tout ça par écrit. Les pensées et les émotions qui apparaissent.
Oui, on n'a pas besoin d'écrire un roman, juste marquer quelques mots-clés.
Marquer quelques mots-clés.
Voilà, la phrase clé pour la situation, l'émotion, le ressenti.
Tout à fait. Et sur une échelle de 0 à 10, 0 c'est tout à fait ok, j'ai pas d'émotion particulière. 10, je ne pourrais pas ressentir plus fort cette émotion présente. À combien j'évalue le ressenti maintenant. Quand j'y repense, à combien je peux évaluer ce ressenti? S'il y a plusieurs émotions, je vais évaluer chacune sur cette échelle de 0 à 10. Donc, dans mon cas concret, j'imagine mon dernier interlocuteur. J'ai une image précise de la personne qui me dit « Eh bien non, il vous faudra rappeler, je ne trouve pas votre dossier. » J'ai une image bien concrète du problème. Sur le papier, je vais noter une phrase qui va résumer ce problème. Alors, dans le cas, ça pourrait être cette pensée qui me traverse. Tous des incapables dans cette boîte. L'émotion, je peux ressentir de la colère, de l'agacement, une forme d'impuissance et puis aussi d'injustice. Comment je me sens quand je me retrouve dans cette impuissance et l'injustice? Quand il y a du retard, quand les choses ne se passent pas comme je veux ou comme j'avais prévu. Je reste bien centrée sur le problème du moment, tous des incapables dans cette boîte, et là, dans cet instant précis, je me sens agacée, et je peux évaluer ça sur mon échelle à 7. Où est-ce que je ressens ça dans mon corps? Je pourrais dire là, dans le ventre, dans la gorge. Ça peut être partout dans le corps, ça peut être dans les poings. Qu'est-ce que je me dis sur les autres? Tous des incapables, toujours pareil. Je peux aussi m'interroger sur qu'est-ce que je me dis de moi dans cette situation. Je peux dire de moi, je suis vraiment stupide, j'aurais dû téléphoner plus tôt. Je fais trop confiance. Je devrais être moins gentille. Je me fais toujours avoir.
C'est toujours sur moi que ça tombe.
C'est toujours sur moi que ça tombe. Voilà, qu'est-ce que je me dis de moi? Et ça, j'engage vraiment les gens à le faire par écrit. C'est beaucoup plus facile et efficace de travailler, quand on travaille seul en EFT, par écrit. Plus facile parce que ça permet de ne pas perdre le cheminement et le fil de la pensée, et efficace parce que on reste mieux centré sur le problème.
Oui, et puis le fait de tenir une sorte de journal de bord de sa pratique d'EFT, c'est intéressant parce que dans quelques semaines, quelques mois, peut-être que vous allez feuilleter ce carnet et retomber sur cet incident et de voir que, bof, ce genre d'événement, ça ne fait plus rien.
Oui, c'est ça. Donc, ça, vous allez pouvoir constater que ça fait longtemps que j'ai pas ressenti cette émotion aussi forte ou voilà où j'en suis aujourd'hui. Et ensuite, une fois que j'ai noté ça par écrit, on effectue des rondes d'EFT. Donc le point karaté, on évoque le problème et ce problème évoqué est suivi de l'affirmation d'acceptation de soi. Ce qui peut donner, même si je n'ai pas encore reçu mon colis, ça c'est un fait, hein, même si je n'ai pas encore reçu mon colis, et que dans cette boîte ce sont tous des incapables, je ressens cet agacement là dans mon ventre et je m'accepte complètement. Et ensuite, sur chaque point, on ne va pas répéter cette phrase avec le même si, on va juste tapoter en énumérant les différents aspects du problème. Ça pourrait être là dans ce cas-là, tous des incapables sur un point, je n'ai pas reçu mon colis, comme c'était prévu, je ressens de la colère, cet agacement dans mon ventre, c'est toujours pareil, rien ne fonctionne, c'est toujours sur moi que ça tombe, et on va stimuler les points les uns après les autres, en changeant ou pas les mots sur chaque point que l'on dit. L'important, c'est vraiment de rester sur le même dossier, c'est de rester sur la même chose.
Oui, on ne va pas traiter plusieurs problèmes en même temps, mais on peut varier les plaisirs dans ces phrases et parler de différents aspects, différentes facettes de ce problème.
Comme on l'a écrit sur un papier, c'est assez facile, on peut relire ce qu'on a écrit sur le papier, on peut rester davantage sur un aspect, on peut faire plusieurs points disant cette colère que je ressens en moi, cette colère qui me fait bouillir, ou, si c'est pas très fort, on peut passer sur un autre aspect. Et on change de point en changeant de phrase.
Et il n'y a pas de mal, comme dans les tout premiers temps quand l'EFT a été enseigné, de garder la même phrase, de dire exactement la même chose sur tous les points.
Exactement.
Ça marchera aussi.
Ça marche aussi. Ça fait un peu perroquet, l'esprit a tendance à pas rester focalisé parce que c'est un peu ennuyeux, donc on a tendance à changer.
Mais si ça marche pour vous,
si on est vraiment en connexion avec le sentiment, on peut très bien rester avec très très peu de mots et toujours les mêmes mots. Le principal est de rester concentré sur le problème à l'intérieur. Et ensuite, à la fin de la ronde, on se reconnecte à la même scène du départ. On repense à exactement à la même image, à la même chose, pour voir s'il est complètement désactivé. Donc, dans mon problème, c'était « Ah ben non, il vous faudra bien rappeler. » Et là, je m'interroge, je me demande, est-ce que je ressens la même émotion que tout à l'heure, ou les mêmes émotions que tout à l'heure? Quelles sont les intensités des émotions que je ressens maintenant? Où est le ressenti dans mon corps? Qu'est-ce qui a changé dans l'image? Qu'est-ce que je me dis maintenant sur les autres? Et qu'est-ce que je me dis maintenant sur moi-même? Est-ce que c'est plus fort, moins fort? Est-ce que c'est pareil? Et même si j'ai l'impression que c'est pareil, je peux quand même me poser la question, qu'est-ce qui a changé? Qu'est-ce qui a changé dans l'image? Qu'est-ce qui a changé dans mon ressenti? Et on note à nouveau tout ceci, tout ce qui continue à apparaître, et on recommence. On peut faire autant de rondes qu'on le désire, jusqu'à ce qu'on se sente complètement, tout à fait détendu et bien quand on repense à cette scène. Et si parfois l'EFT peut amener rapidement une libération, bien souvent, il faut aussi être persévérant.
Mmh.
Parce que tu vois, Maria, il faut bien le reconnaître. Rester dans l'agacement ou pas, cela ne changera rien au fait qu'il faut rappeler mardi et que le colis n'est toujours pas arrivé.
Mmh. Ah oui, c'est vrai ça.
Et mon choix, il est juste là. Je peux rester dans l'agacement ou pas.
Ouais, mais c'est énervant quand même.
Ou pas.
Ok. Est-ce que tu as d'autres exemples de ta pratique en cabinet peut-être?
Oui, j'ai un autre exemple de l'utilisation de l'EFT comme ça, dit en urgence, sans forcément faire de travail de fond. Et un homme est venu me voir, appelons-le Bob. Donc Bob vient me voir pour dépasser une appréhension forte. Dans le cadre de son divorce, il devait prendre la parole au tribunal pour se défendre au sujet d'une pension alimentaire qui devait être revue à la hausse et qui devait verser à son ex-épouse. Et ça lui faisait très peur d'aller à ce tribunal. Il ressentait une très forte colère, car ce qui s'est passé lui semblait vraiment injuste et la somme demandée était vraiment élevée. Alors, on a travaillé avant l'audience, la veille, puis le matin même, un quart d'heure avant l'audience, et le résultat est qu'il a pu prendre la parole pendant ce procès. Enfin, c'était pas un procès, bien sûr, mais devant cette entrevue. Et puis, il a pu dire ce qu'il souhaitait dire calmement et clairement. Et il avait juste à faire ce qu'il avait à faire et puis lâcher au maximum ses attentes quant au résultat. Et ça, c'est pas toujours facile à faire en EFT, sans l'EFT.
Mmh.
C'est vraiment pour moi ça un exemple parfait de l'autopratique en urgence. L'objectif était précis et ponctuel.
Mais c'était pas de l'autotraitement. Il a fait la séance avec toi.
Alors, il a fait la séance avec moi parce qu'il connaissait pas suffisamment l'EFT pour le pratiquer tout seul. Mais il connaissait un peu l'EFT. Et on avait déjà travaillé ensemble. Donc, il a fait appel à moi. Mais s'il avait maîtrisé les bases de l'EFT et s'il avait eu de la pratique, s'il avait été entraîné à faire de l'EFT.
Il aurait pu faire la même chose seul.
Je pense qu'il aurait pu se préparer à cette entrevue seul. Il était dans la peur de ne pas pouvoir dire ce qu'il voulait dire et comment il voulait le dire. Il voulait rester vraiment calme pendant cet entretien. Or, il se sentait piégé et quand il pensait à l'audience du lendemain, il avait une représentation comme un piège avec un juge qui était plutôt malveillant. Tu vois, il avait une représentation mentale où il se retrouvait tout seul dans un piège. Et avec cette représentation-là, c'est tout à fait normal qu'il soit dans la peur. Il faut bien dire quand même que parfois, même quand on sait pratiquer l'EFT tout seul, c'est quand même plus confortable de demander à quelqu'un d'en faire avec nous et de nous aider, de nous accompagner.
Oui, et ça effectivement, aussi experte que nous soyons, ça concerne tout le monde. Et comme je dis souvent, la meilleure masseuse du monde ne peut pas se masser le dos, et même quand on maîtrise l'outil EFT, de temps à autre, c'est utile et on peut avoir l'envie et le besoin de faire une séance avec quelqu'un d'autre.
C'est plus agréable, on peut se lâcher dans sa colère et rentrer profondément dans le sentiment sans être obligé de faire des phrases jusqu'au fond du problème. On se fait accompagner, on se fait guider.
Mm.
Dans le cas de Bob, on n'a pas fait de travail de fond, on a juste travaillé en EFT pour lui permettre d'aller à cette audience dans les meilleures conditions possibles et avec un état interne le plus confortable possible. C'est le travail de fond ensuite sur la gestion de sa colère, la gestion de cette injustice. Il aurait fallu le faire après. En tout cas,
oui, mais là, l'objectif était d'être
Il m'a relativement appelé... calme pendant la séance.
Il m'a appelé la veille de son audience. Donc, ouais. On n'avait pas le temps de faire un travail de fond important.
Mm.
Je pense à un autre exemple. Et cet exemple-là, c'est avec un golfeur professionnel. Ce monsieur est venu me voir par rapport à un blocage qui était relativement récent chez lui. Il ne parvenait plus à faire des putts. Tu sais, Maria, c'est le moment où le golfeur doit mettre sa balle dans le trou.
Mm. Les coups faciles.
Ouais. Lui, il fait les coups faciles. En tout cas, il me disait...
joue pas au golf, hein, je précise.
Il me disait que tous les putts qui étaient faciles, il les ratait. Il me disait ça, si je me souviens bien, ou quelque chose comme ça en tout cas. Il me dit, à partir du moment où je me dis, c'est vraiment un coup inratable, ben, je mets la balle à côté. Ça le rendit fou. C'est tellement facile, il faut vraiment être nul pour rater. Alors, on a travaillé sur le terrain de golf, en situation réelle. On est allé sur place. Et là, on a travaillé sur sa représentation. Quelle sensation physique, quelle émotion, où dans son corps il ressentait cet inconfort entre 0 et 10, et qu'est-ce qu'il se disait sur lui-même.
Les mêmes questions, la même démarche.
Les mêmes questions, on a tapoté les mêmes points, c'est toujours de la même manière qu'on œuvre, c'est... quand je vois ce coup qui va être facile, que je dois faire mon putt, qu'est-ce que je ressens comme anxiété, qu'est-ce que je me dis? Et grâce à l'UFT, il a réussi à changer sa représentation mentale et ses pensées stressantes qui étaient bien présentes lorsqu'il devait effectuer ses putts. Et le résultat pour lui, en tout cas, a été vraiment très positif.
Mmh. Et est-ce qu'on peut considérer que ce résultat sera définitif?
Alors, bien sûr, là, dans ce dernier exemple, son comportement était un indicateur de quelque chose de bien plus profond. Mais sa demande était très spécifique et très ponctuelle. Donc,
ce n'est pas en faisant cette pratique sur le terrain de golf que vous alliez aller examiner toute son histoire et faire le travail de fond.
Non. D'ailleurs, on n'a pas fait de travail sur le fond, sur le sujet. Si j'y rate ça, c'est que je suis nulle. Ni sur des événements de son passé qui pouvaient être en lien avec ça. Et bon, voilà, c'est comme ça, ça a été son choix. Ce que je peux dire, c'est que tant que tout ne sera pas désactivé, tant que tous les aspects de ce problème ne seront pas nettoyés, il est quand même fort à parier que ça risque de se remanifester d'une manière ou d'une autre dans sa vie. Alors, peut-être plus quand il fera des putts, mais ça peut ressurgir à un autre moment. Cette croyance-là est toujours en lui.
Mmh. Ou dans d'autres domaines de sa vie.
Ou dans d'autres domaines de sa vie, la peur de réussir ou la peur de gagner ou la peur de perdre, ce genre de programme, si je rate, c'est que je suis nulle. Et se mettre à rater des choses irratables, c'est quand même pas anodin. Ça peut se manifester dans la vie de bien d'autres manières qu'en faisant des putts.
Mmh.
Et en tout cas, si ça s'est présenté, c'est pas un hasard. Ça me fait aussi penser à des étudiants qui viennent nous voir, me voir, pour gérer la peur des examens. Alors, si on prend l'exemple de l'oral, c'est souvent, bien sûr, à la dernière minute qu'il vient nous voir. Ça mériterait aussi un travail de fond. Le plus souvent, c'est sur l'estime de soi, la confiance en soi. Faire un travail sur d'autres moments où ils ont pu avoir à passer des oraux, où ça s'est pas très bien passé. Mais là encore, le travail commence par la préparation à un événement qui est proche. Alors, on va s'occuper du déclencheur du présent, c'est-à-dire cet oral qui a lieu dans peu de temps. Et là, je pense pas que ce soit le bon moment, à 8 jours avant un examen, pour commencer à ouvrir un chantier sur le travail de fond, de l'estime de soi, qui demande plusieurs séances, qui demande de mettre des choses à nu. Ça veut pas dire que c'est pas nécessaire de le faire. Je veux juste dire que souvent, c'est pas le bon moment, 8 jours avant l'examen, d'ouvrir tous ces dossiers et de mettre les gens, parfois, dans le dernier confort.
Mmh.
Alors, on le sait, les souvenirs se stockent par grappes et de ce fait, ils se connectent entre eux. Et tout ce qui se ressemble s'assemble, en fait, dans le stockage du souvenir. Et les aspects qui sont communs connectent les souvenirs entre eux. Et dans notre souvenir d'adaptation, nous nous protégeons de nos souvenirs traumatiques et c'est une excellente chose. C'est aussi une des raisons pour lesquelles, je crois, que nous ne pouvons pas tout traiter tout seul. Quand quelque chose est là et que c'est trop lourd, et c'est quelque chose qui est trop lourd apparaît, moi je trouve qu'il est très bon de se faire accompagner.
Mmh. Et il peut y avoir toute une grappe qui est en fait comme comme tabou ou interdit. Et
oui.
Dès qu'on commence à s'en approcher, par oui. soi-même, on va s'éloigner parce qu'il y a quelque chose de dangereux là-dedans, enfin, de risqué, de, oui. de pénible. Et là, effectivement, l'accompagnant peut nous amener là où nous n'avons pas envie d'aller.
Et puis, ça peut être toute une grappe et ça peut être un événement dans la grappe. Dans la grappe des humiliations, il peut y en avoir une. On va travailler l'humiliation dans l'instant présent, là, sur, je sais pas...
Oui, mon patron qui m'a raconté ça devant tout le monde à la réunion la semaine dernière.
C'est ça. Mais si j'ai une blessure d'humiliation beaucoup plus importante, ancienne, et ça va quand même se connecter avec celle-là, alors, bon, voilà, parfois, il est bon de se faire accompagner. Je pourrais vous dire que extraire toutes les racines qui amènent un problème, on peut se poser les questions suivantes. À quelle situation cela me fait-il penser dans mon histoire de vie? Par exemple, mon monsieur le golfeur, le coup est inratable. Seuls les nuls ratent ce genre de coup.
Il faut vraiment être nul pour rater ça.
Ouais, je tape la balle et paf, je rate. Qu'est-ce que je suis nul? À quelle situation cela me... Je lui poserai cette question. À quelle situation, dans votre histoire de vie, ça vous fait penser à quoi? À quelle autre situation ça vous fait penser? Est-ce que vous avez entendu quelqu'un d'autre dire ce genre de choses? Si la réponse est oui, c'est qui, a dit ça, déjà, quand, dans quelles circonstances?
Et parfois, c'est très évident. On a cette phrase clé qui vient.
Ça arrive.
Il faut être nul pour rater ça. Et il y a une question à se poser, c'est quelle est la voix qui dit ça? Est-ce que je oui. connais cette voix? Et très souvent, c'est quelqu'un de connu.
Exactement. Cette émotion-là que je ressens, dans l'instant présent, quand est-ce que je l'ai déjà ressentie dans ma vie? Et à quel moment? Là, tu vois, Maria, nous pouvons vraiment commencer à connecter et à faire un grand nettoyage de notre histoire, de notre passé, et surtout de ces conditionnements qui sont encore présents dans notre vie.
Mmh. Donc là, nous y sommes, c'est beaucoup plus le travail de fond que tu as évoqué comme deuxième axe de la pratique en autotraitement de l'EFT, c'est ça?
Exactement, Maria. Alors, en premier lieu, j'ai à cœur de vous rappeler cette citation d'André Mauroy. Le bonheur est une décision que nous prenons d'être heureux, quoi qu'il arrive. Alors, vous pouvez avoir envie d'être heureux, mais a priori, ça suffit pas. Sinon, je crois qu'on le serait tous. Moi, j'ai envie de faire du sport, j'ai envie d'aller au cinéma, j'ai envie d'écrire un livre, pourquoi pas. Et c'est bien normal d'avoir des envies, c'est même très sain. Mais avoir des envies ne suffit pas pour passer à l'action. Le passage à l'action se déclenche par une prise de décision. Il faut décider et passer à l'action. Et parfois, il y a un problème. Décider de passer à l'action, ça ne suffit pas non plus. Vous pouvez être confronté à des résistances au changement. Résistance inconsciente, bien sûr, mais sinon ça serait trop simple.
C'est quand on se dit avec la tête, oui, je veux changer tel point dans ma vie, mais clairement quelque chose d'autre en nous qui dit, non, 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 je ne le veux pas vraiment.
On s'aperçoit qu'on ne le fait pas, mais on en a vraiment envie. Et nos croyances sont plus fortes que nos décisions. Si vous voulez faire de l'EFT, il faudra aller regarder la croyance que vous avez par rapport à l'EFT. Si vous croyez que faire de l'EFT peut vous mettre en danger, alors, même si vous décidez d'en faire, quelque chose va vous en empêcher. C'est comme si une part de vous prenait le contrôle et vous disait « non, 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 pas de ça chez nous ». Les principaux programmes qui nous bloquent, c'est nos pensées irrationnelles aussi, hein, c'est des résistances au changement, elles sont aussi appelées inversion psychologique en EFT. Consciemment, nous disons vouloir changer, et c'est bien vrai, on le veut, hein, c'est un désir.
Oui, c'est pas un manque de volonté quand ça fonctionne pas.
Pas du tout un manque de volonté, c'est bien ce que nous voulons, mais notre inconscient peut contenir un autre programme automatique qui est bien actif et qui, lui, en décide autrement.
Alors, quelles sont les principales résistances au changement, pour ne pas dire les principales inversions psychologiques?
Alors, ça peut être ne pas se sentir assez en sécurité pour changer. Maria, c'est des gens qui nous disent « Oh, je me sens pas prêt. J'ai envie, mais je me sens pas prêt.
»
Ne pas être certain de ce qu'on veut, c'est une sacrée résistance aussi.
Je le veux, mais je le veux pas.
Oui, je suis pas certain. Alors que la personne sait très bien ce qu'elle veut, mais voilà, il y a cette résistance qui arrive. Il peut y avoir un danger pour les autres si je viens à changer. je perdrais mon identité, je saurais plus qui je suis, si je faisais plus comme ceci ou comme cela, j'ai l'habitude, ça fait partie de mon caractère, ça fait partie de mon identité. Ça peut être, je saurais plus qui je suis si je me mettais à gagner.
Mmh.
Face à une résistance au changement, c'est-à-dire face à cette résistance à obtenir ce que vous voulez obtenir, on peut se poser les questions suivantes. Qu'est-ce qui pourrait se produire si ce changement avait bien lieu? Et tu vois, Maria, ce genre de questions, c'est pas se le poser 3 minutes en marchant dans la rue. C'est, on se pose, et puis vraiment, on va essayer de laisser émerger en nous ce qu'on a vraiment à l'intérieur de nous. Qu'est-ce qui pourrait se produire si ce changement avait bien lieu? Et on l'écrit. C'est plus simple. Quelles vont être les conséquences de ce changement dans ma relation avec les autres? Et les autres, on peut penser à son mari, à ses enfants, à ses amis, à ses collègues de travail.
C'est ça, les autres. Ses parents. Et est-ce que par hasard, il y a quelqu'un dans ce lot-là qui aurait peut-être des objections?
Oui. Quelles vont être les conséquences de ce changement dans ma relation avec les autres? Est-ce que quelqu'un sera mécontent? Et est-ce que c'est un problème pour moi? Dans certains cas plus confus, ça pourrait être parce que ça rendrait trop ma mère contente, alors je vais rester dans l'échec, tu vois. Ça peut être aussi dans le sens. C'est-à-dire, mm-hmm. est-ce que quelqu'un serait content et ça serait un problème pour moi? Qu'est-ce que je perdrais en réussissant ce changement? À quoi faudra-t-il que je renonce si je réussis ce changement? Qui ou quoi est-ce que j'essaie de protéger? Est-ce qu'il y a un danger? Et ce changement sera-t-il bon pour moi? Est-ce qu'il est écologique?
Alors, résistance au changement, est-ce qu'on pourrait faire quelques rendez-vous sur ce sujet, Noël?
Si tu veux en faire maintenant, tu peux en faire maintenant.
Ben, je crois que c'est le moment.
Alors, je vais demander aux auditeurs de choisir quelque chose que vous voudriez changer dans votre vie. Alors, ça peut être un comportement, une façon de faire, une attitude. Une habitude, par exemple, je vais donner quelques exemples, ça peut aider. Vous voulez rester plus calme, vous voulez rester plus calme avec vos enfants, avec votre patron, avec, voilà. Ne plus arriver en retard à vos rendez-vous, par exemple. Vous voudriez développer votre activité professionnelle. Vous voulez changer de métier, voyager, écrire, chanter dans une chorale. Déménager. Qu'est-ce que vous voudriez changer dans votre vie? Prenons une phrase de départ. Je me sens tendu, retenu, anxieux. Choisissez ce qui vous convient le mieux. À l'idée de. Et là, vous donnez votre exemple. Pour la démonstration, je vais prendre l'exemple d'un déménagement, qui est un changement qui peut être angoissant. Un déménagement, un changement de lieu. Donc je me connecte à cette phrase et je me sens tendue à l'idée de déménager. Entre 0 et 10, à combien ressentez-vous cette tension, cet inconfort?
Donc on rappelle que c'est l'intensité de l'inconfort
que je ressens maintenant quand je me connecte à mon envie de changement.
Voilà, donc 0, c'est tout va bien, et 10, c'est maximum d'inconfort.
Où se situe cette gêne dans votre corps? Et quelles sont vos pensées quand vous vous connectez à ça? Que vous dites de vous?
Sur vous et sur les autres personnes impliquées dans ce changement, peut-être.
Et puis, on va commencer tout de suite.
Et là, on va juste rappeler que si c'est les phrases que va proposer Noël ne correspond pas exactement à votre problème, ce n'est pas un souci. Répétez quand même les phrases à voix haute si vous pouvez, parce que nous allons avoir tous ce qu'on appelle les bénéfices partagés. Donc suivez le guide.
Alors Maria, je vais commencer. Tu répètes après moi les phrases?
Bien sûr.
Et je vais noter les points. Donc, le point karaté. On va tapoter le point de karaté en disant, même si je me sens tendue à l'idée de faire ce changement dans ma vie.
Même si je me sens tendue à l'idée de faire ce changement dans ma vie.
Je m'accepte complètement.
Je m'accepte complètement.
on reste sur le point karaté, même si je ne me sens pas prêt ou prête pour ce changement.
Même si je ne me sens pas prête pour ce changement.
Je m'accepte du mieux que je peux.
Je m'accepte du mieux que je peux.
Même si j'ai de bonnes raisons pour freiner ce changement.
Même si j'ai de bonnes raisons pour freiner ce changement.
Je m'accepte tel que je suis.
Je m'accepte tel que je suis.
Le poing sur la tête. Ce changement me fait peur.
Ce changement me fait peur.
Racine de sourcil. Je ne suis pas complètement prête pour ce changement.
Je ne suis pas complètement prête pour ce changement.
Coin de l'œil. Je voudrais changer et ne pas sortir de ma zone de confort.
Je voudrais changer et ne pas sortir de ma zone de confort.
Le point sous l'œil. Je voudrais rester dans ma zone de confort et changer.
Je voudrais rester dans ma zone de confort et changer.
Et déménager. Sous le nez. Je ne suis pas certaine de vouloir ce changement.
Je ne suis pas certaine de vouloir ce changement.
Sur le menton, creux du menton, cette résistance au changement que je peux ressentir en moi.
Cette résistance au changement que je peux ressentir en moi.
Clavicule. Et si cette résistance au changement était plus inconfortable que le changement lui-même?
Et si cette résistance au changement était plus inconfortable que le changement lui-même?
Sous le bras. Et si cette étape de changement était une expérience plus facile que ce que je me raconte?
Et si cette étape de changement était une expérience plus facile que ce que je me raconte?
Sous le sein. Cette part de moi qui a peur.
Cette part de moi qui a peur.
Le point sur le pouce. Je m'adresse à elle et la remercie pour son message.
Je m'adresse à cette part et je la remercie pour le message.
Pour ce message qu'elle souhaite me faire entendre.
Pour ce message qu'elle souhaite me faire entendre.
Sur l'index. Il y a un danger à changer.
Il y a un danger à changer.
Sur le majeur. Ok, j'entends bien ce message et je le comprends.
Ok, j'entends bien ce message et je le comprends.
Petit doigt. Sachant ça.
Sachant ça.
Je peux commencer à mettre en place un début de changement.
Je peux commencer à mettre en place un début de changement.
Et le point gamme, le point sur le dessus de la main. Cette résistance au changement que j'ai en moi.
Cette résistance au changement que j'ai en moi.
Merci Maria, tu prends une bonne respiration.
Si vous avez de l'eau, c'est le moment.
Voilà, je ne sais pas si tu as, en début de tapping, pensé à quelque chose de particulier.
Oui, j'avais noté des choses, oui.
Oui. Bon.
Ça semble un peu plus faisable,
on va dire. De toute façon, je pense, Maria, que il y a beaucoup de choses impliquées dans un changement, donc il faudrait faire chacun des aspects. On pourrait reprendre plus ou moins ça plusieurs fois en se concentrant sur chaque aspect de ce changement, ce qu'on se dit. Oui, mais je vais déménager, mais j'ai peur d'avoir un appartement plus petit, de pas m'entendre avec mes voisins, il va falloir que je renonce.
Les cartons,
je peux perdre des amis, avoir peur de pas pouvoir m'en faire d'autres. Il y a énormément d'aspects. Donc, faisons tous les aspects et faisons de l'EFT sur chaque aspect de ce qui se présente.
Alors, avant de retrouver nos auditeurs pour les questions, Noël, tout à l'heure tu parlais de routine EFT. Est-ce que tu peux rapidement nous en dire un peu plus?
La routine EFT au quotidien. Alors, je vais le répéter parce que j'aime bien cet exemple. Il n'y a pas grand monde qui me dirait « je voudrais bien me brosser les dents, mais j'ai pas le temps ».
En effet.
Donc, la salle de bain, c'est vraiment un excellent endroit pour faire un peu d'EFT. Prendre sa douche, se laver les dents, faire 2-3 rondes d'EFT avec des choses simples, du style. Même si j'ai pas envie d'aller bosser, je m'accepte. Même si je dois faire ce courrier ou autre chose. J'ai vraiment pas envie, je m'accepte complètement. Ça, sur le point karaté, et ensuite, sur chaque point, on peut répéter la phrase de rappel. Prendre quelques minutes par jour pour commencer à en faire, même si les phrases ne sont pas très bien ciblées, pas très bien axées. Prendre l'habitude, Et puis, au fur et à mesure, ça deviendra beaucoup plus facile d'en faire. En faire sur des petites choses au début, des choses faciles, un événement qui agace, on n'arrive pas bien à se réveiller. Et on peut aussi en faire en même temps qu'on fait autre chose. Par exemple, en marchant dans la rue, on peut tapoter juste les doigts. C'est pas tout à fait de l'EFT, c'est du tapping continu, mais ça fait partie de cette technique-là. On peut même en faire dans les transports. Je me rappelle d'une jeune femme avec qui j'ai travaillé, et puis dès le matin, elle avait des pensées extrêmement négatives. Alors on a cherché ensemble la façon la plus facile et la plus rapide, je dis bien la plus facile et la plus rapide, pour elle, de le mettre en place quotidiennement. Et on a décidé qu'une ronde de EFT en deux parties à faire sous la douche. Comme ça, c'était pas quelque chose qu'elle avait à faire en plus, mais quelque chose qu'elle pouvait faire en même temps. Et la phrase, c'était à peu près celle-là. Même si la vie, c'est vraiment dur, et même si j'ai de bonnes raisons de me sentir malheureuse, je choisis aujourd'hui d'être consciente de tout ce qui est sympa. Puis, elle faisait une ronde avec la première partie de la phrase. La vie, c'est vraiment dur, j'ai de bonnes raisons d'être malheureuse, mon passé a vraiment été difficile, c'est normal que j'en sois là aujourd'hui, la vie, c'est vraiment dur. Sur chaque point, elle disait quelque chose de négatif qui était présent en elle. Et puis la deuxième ronde, ça la mettait dans une direction. Aujourd'hui, je choisis de pouvoir commencer à voir ce qui va bien. Je choisis de filtrer les bonnes choses qui m'arrivent. Je choisis et je décide aujourd'hui d'être un peu plus heureuse.
Très bien. Alors, Noël, est-ce que tu dirais qu'une raison possible de ne pas arriver à faire de l'EFT seule, c'est que les personnes veulent reproduire chez eux ce qui s'est passé pendant une séance faite avec un praticien ? Et c'est pas du tout la même chose en autotraitement qu'avec un praticien. En quoi c'est différent?
Tu sais, Maria, tu en conviendras, hein, se parler seul à haute voix dans sa salle à manger, c'est pas la même chose que de parler à quelqu'un. Et même si ce quelqu'un ne fait qu'écouter et intervient très très peu, c'est quand même pas la même chose. Ben, la présence et l'écoute du praticien ont une très grande importance dans le processus. De plus, il peut reformuler les propos, il va aider à mettre, à clarifier la pensée, il va aider à la clarifier et à la préciser, il va aider avec des questions, il va vous poser des questions que vous ne vous posez généralement pas tout seul, il fait comme une sorte de miroir dans lequel le client peut se voir plus clairement. Une des questions préférées des gens, c'est par exemple « pourquoi ?». Et malheureusement, cette seule question n'est pas très aidante pour pratiquer l'EFT. Elle est aidante, bien sûr, mais pas seule et elle n'est pas toujours utile. Je me rappelle un client qui se demandait en boucle, mais pourquoi je n'arrive pas à demander une augmentation de salaire à mon patron, alors que je sais très bien que si je la lui demandais, il est sympa, il m'écouterait probablement, et puis avec les arguments que j'ai, il me l'accorderait. Et en tout cas, c'est presque sûr qu'il me l'accorderait. La réponse à cette question du pourquoi j'y arrive pas, c'est parce que les croyances déclenchent des pensées qui déclenchent des émotions. Ces émotions, elles déclenchent les comportements. Ces comportements deviennent la somme de nos expériences de vie. Et toutes ces expériences de vie, c'est notre réalité d'aujourd'hui. Alors, si on essaie de trouver la réponse au pourquoi je n'y arrive pas avec cette simple question pourquoi, ben, on a du mal à trouver.
Alors, quelle meilleure question peut-on se poser?
Ben, la meilleure question, c'est ce qu'on fait, c'est ce que j'essaie d'expliquer depuis le début, c'est on visualise une scène précise. Vous êtes dans le bureau de votre patron et vous allez lui demander l'augmentation. Qu'est-ce que vous ressentez? Qu'est-ce que vous ressentez de votre corps à l'idée de demander cette augmentation? Est-ce que vous avez une image précise? Connectez-vous à cette image. Quelle émotion vous ressentez? Ou vous pouvez avoir cette sensation dans votre corps? Qu'est-ce que vous vous dites de vous? Qu'est-ce que vous vous dites sur votre patron, sur votre interlocuteur? Et là, nos langages intérieurs sont nos plus belles phrases. Apprenons à nous observer, à nous connaître et à nous écouter. Et ça, c'est certainement le plus difficile. Écouter et observer nos pensées. Et tu sais pourquoi c'est le plus difficile? Parce qu'on n'a pas appris, puis on n'a pas l'habitude de le faire.
Ben merci Noël, merci beaucoup pour ces pistes.
pour mieux utiliser l'EFT ou commencer à utiliser l'EFT en auto-traitement. Et je crois que tu donnes encore d'autres pistes dans ton bonus.
Oui, j'ai préparé un bonus pour les personnes qui décident d'investir dans le pack. J'offre en bonus un outil vraiment pratique qui vous aidera à utiliser l'EFT sur le thème des relations. Guérir, améliorer, apaiser les relations. Alors que ce soit les relations avec des personnes, que ce soit avec des personnes présentes dans nos vies ou avec des relations anciennes. Et à bien y regarder, le thème des relations est un sujet qui est très vaste. Parce que je peux avoir les relations que je tisse avec des personnes, certes, mais aussi avec des lieux, avec des objets, et puis la relation que j'ai avec moi-même, qui est une sacrée relation.
Effectivement, il y a
des parts de nous.
Il y a du boulot.
Il y a du travail.
Ok, on va retrouver les auditeurs dans le chat pour les questions.
Avec grand plaisir.
Ne quittez pas, à tout de suite.
À tout de suite.
Voilà, voilà, le chat est ouvert. Posez vos questions. Alors, je tiens à dire que c'est vraiment génial de vous retrouver tous. Merci d'être là, les nouveaux, les anciens. Vous êtes plus de 1000 personnes dans la salle et c'est génial. Je voudrais profiter pour saluer quelques membres de l'équipe. À commencer, c'est dans le désordre hein, et c'est pas une liste exhaustive, mais d'abord merci à Samia que vous avez peut-être croisé sur la page Facebook et qui nous aide ce soir pour les questions. Christelle, alias la bonne fée, la gentille dame qui m'a dépannée, Miss Hotline EFT, c'est elle qui répond à vos mails quand vous n'arrivez pas à vous connecter. Et je ne sais pas si on doit la féliciter le plus pour sa rapidité de réponse ou pour sa gentillesse. Merci Christelle. Et pour lui faciliter la tâche, pensez à préciser ce qui se passe. Si vous avez un problème, parce que dans certains mails, on a juste reçu « ça ne marche pas ». Et ça, malheureusement, ça ne nous aide pas beaucoup et on ne peut pas vous guider. Donc pensez à dire ce qui ne va pas, plus précisément. Comme ça, Christelle pourra vous dépanner. Et je salue aussi Bertrand qui finalise en ce moment même les pages de la boutique qui va ouvrir demain. Et vous y trouverez les packs du congrès avec les enregistrements, les transcriptions, le coffre au trésor, les cadeaux au bonus exclusifs de tous nos intervenants et aussi des produits de nos experts. Et on vous en parlera plus quand elle sera disponible. Et il y a plein d'autres membres dans l'équipe. Merci à tous. On vous les présentera à un autre moment. Et merci aussi à nos partenaires et nos ambassadeurs.
Alors, j'ai vu plusieurs questions. Je vais commencer par une question de Monique. J'ai peur que cela ne marche pas avec moi. J'ai l'impression que je suis bloquée. C'est une question délicate, ne connaissant pas du tout Monique. Si c'est une simple impression d'être bloqué, ça peut très bien se travailler en EFT. Vous pouvez commencer à faire des rondes sur vos croyances par rapport à ce blocage. J'ai l'impression que je suis bloqué. Vous pouvez tout à fait prendre cette phrase-là, commencer vos phrases et vos rondes EFT. Même si j'ai l'impression d'être bloqué, je m'accepte complètement et sur chaque point, restez connecté à cette impression d'être bloqué et changez la phrase en disant par exemple « j'ai l'impression que je suis bloqué » et vos croyances par rapport à ça ou vos expériences de vie. Peu de choses marchent sur moi, j'ai déjà essayé tellement de choses qui n'ont pas marché que je suis dans le doute. Et puis, allez visiter tout ce dossier. Pourquoi vous vous sentez bloqué? Depuis quand? Est-ce que vous avez le souvenir d'un moment dans votre vie où cette croyance s'est mise en place? Et puis, faire de l'EFT sur cette impression d'être bloqué, sur cette croyance que ça ne marche pas pour vous. Il y a une deuxième question, comment faire pour sortir de ma dépendance affective? La dépendance affective est un vaste dossier. Souvent, les gens qui sont en prise avec la dépendance affective ont un passé d'enfance où ils ont manqué d'affection. Et pour pouvoir aller travailler et plonger dans ce dossier, j'ai plutôt tendance à dire, vous pouvez commencer l'EFT seul pour ce qui se passe en ce moment dans votre vie, mais peut-être que votre histoire va ressurgir et que là, ça serait intéressant que vous soyez accompagné, me semble-t-il, s'il s'agit d'une véritable dépendance affective, en tout cas. Alors, pouvez-vous me donner des pistes pour des problèmes d'insomnie? Je vois pas le prénom de qui a posé cette question parce que j'ai recopié vite fait sur un papier. Les problèmes d'insomnie, ça peut être de plusieurs sortes. Il y a les problèmes d'insomnie de la personne qui n'arrive pas à s'endormir parce qu'elle a des pensées qui sont toujours présentes dans sa tête. Il y a les problèmes d'insomnie d'une personne qui va s'endormir très bien puis se réveiller à 2 heures du matin et pas pouvoir s'endormir. Et la personne qui va bien s'endormir, dormir et se réveiller très très tôt. Et puis il y a des personnes aussi qui pensent avoir des problèmes d'insomnie et qui n'en ont pas. Ce sont des gens qui peuvent dormir 4 heures et se sentir en pleine forme. Mais il y a la croyance que si elles ne dorment pas 8 heures, alors c'est qu'elles sont insomniaques. Donc tout dépend dans quelle catégorie la personne qui a des problèmes d'insomnie se pose. Et l'EFT ne se pratiquera pas tout à fait avec les mêmes phrases. Maintenant, l'EFT se pratique toujours de la même manière, on tapote toujours les mêmes points, dans le même ordre, en étant focalisé sur le problème. Voilà, j'espère que j'ai répondu, au moins en partie. Je regarde s'il y a d'autres questions.
Oui, il y en a. Je les lis en même temps, alors c'est beaucoup. Pourquoi vous ne dites pas je m'aime et je m'accepte complètement?
Alors, pourquoi je ne dis pas je m'aime et je m'accepte complètement? Gary Craig, quand il a développé la méthode, il faisait dire la phrase de Gary Craig, c'est je m'accepte complètement et totalement. Cette phrase, pour lui, l'acceptation est à la base de la guérison. Donc, il fait dire je m'accepte, ce qui est extrêmement important. Ensuite, quand on lui a posé la question du je m'aime et je m'accepte, il a dit mais avant de s'aimer, il faut pouvoir s'accepter. Donc, il préfère qu'on commence par le je m'accepte. Et puis, Louise Gervais a traduit son livre en français et elle l'a traduit en disant je m'aime et je m'accepte. Donc, beaucoup de gens disent ces deux termes, je m'aime et je m'accepte. Aujourd'hui, je sais que Louise a enlevé le je m'accepte et elle dit juste je m'aime à la fin de ses rondes de tapping. Donc, vous pouvez dire les deux, vous pouvez en dire qu'un. L'EFT classique de Gary Craig dit je m'accepte complètement et totalement. Donc, moi, je fais un mélange. Je dis parfois je m'aime, parfois je m'accepte, parfois les deux. Je voudrais savoir comment l'EFT peut aider une personne qui est anorexique et qui est en suivi par un psychiatre et nutritionniste, mais qui a fait une grave rechute. C'est bien sûr quelque chose de très
Délicat.
compliqué et délicat, l'anorexie. Il m'est arrivé de suivre quelqu'un dans ce cadre-là. N'étant pas ni psychologue ni psychothérapeute, je faisais un complément de soins. Cette personne était suivie par ailleurs et on a travaillé sur ses croyances, sur son estime d'elle, sur la vision qu'elle avait d'elle, sur des éléments de son passé. Qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil? Commencer à faire de l'EFT dans un cadre de ses sensations corporelles du moment, mais surtout qu'elle continue à se faire accompagner et elle peut aussi trouver des personnes, des psychologues ou des psychothérapeutes qui sont formés à l'EFT. Il y en a de plus en plus. On a de plus en plus de gens qui se forment à l'EFT et qui sont des professionnels de la santé. Donc, ça serait peut-être quelqu'un qui serait plus habilité à accompagner cette personne. ou, comme je le disais tout à l'heure, en complément d'un suivi beaucoup plus vaste. Je lis les questions,
Oui, ça défile.
Sur combien de jours doit-on faire des séances EFT? Une semaine, 21 jours ou de temps en temps?
Oui, il y a aussi des questions. Combien de fois dans la journée? Combien de temps?
Alors, je vais dire, ça dépend des gens, ce qu'ils ont envie, la décision qu'ils ont aussi posée d'aller bien, d'aller mieux, de la problématique. Faire de l'EFT, ça ne peut pas nuire à la santé. Étant donné que stimuler les points d'acupuncture remet le système énergétique en bon fonctionnement, j'ai tendance à dire que si vous en faites beaucoup, vous allez vous sentir mieux que si vous en faites pas du tout. Pas beaucoup. Si la problématique est lourde, vous pouvez le faire dès qu'un déclencheur qui est dans le présent vous active au niveau émotionnel d'une façon forte. Donc vous pouvez en faire à toute la journée, à des moments ponctuels, tout dépend de votre vie. Vous pouvez faire de l'EFT avec le processus de paix personnelle comme parle Gary Craig, c'est-à-dire tous les jours, vous prenez un temps pour régler des problèmes de votre passé qui se retrouvent dans votre présent. Vous pensez à quelqu'un, vous avez eu un divorce difficile et puis vous pensez à votre ex qui vous obsède encore. Vous pouvez faire de l'EFT sur ce dossier tous les jours, alors pendant 21 jours, pendant 3 mois, pendant 15 jours. Ça, c'est à chacun de voir le rythme. Mais plus vous en ferez, mieux vous vous sentirez à la sortie et plus vous aurez des émotions apaisées, ce qui est le but de faire de l'EFT.
Alors là, Noël, je vois défiler une question. Kira389 demande, je suis claustrophobe, est-ce que ça marcherait pour moi? est-ce que ça marcherait pour ceci?
ça fait rire, Maria, cette question, parce que c'est exactement la problématique que j'avais et qui m'a fait rencontrer l'EFT. J'étais moi-même claustrophobe et j'avais donc, comme tout phobique, une vie qui était organisée autour de ma phobie et pour éviter d'être en contact avec ma phobie. Donc, j'allais très peu au cinéma. Le restaurant, c'était parfois un peu compliqué. Des restaurants où on était tassé dedans. Je pouvais pas prendre l'avion. Le TGV, c'était un peu compliqué si le voyage était loin et long. Donc, et c'est comme ça que j'ai rencontré l'EFT. On m'a fait une séance d'EFT dans un ascenseur. Et j'étais terrorisée dans cet ascenseur. Et le fait que l'on stimule les points sur mon corps, parce que j'étais dans un état de figé, et je pouvais pas tapoter sur moi. Donc c'est quelqu'un qui a tapoté les points sur moi, et ça m'a complètement libérée de cette terreur. Je déconseille fortement de faire comme ça, ça sert à rien d'aller aussi fort, mais tout ce qui est problématique de phobie, l'EFT marche très bien. Et on peut commencer, et j'ai plusieurs personnes dans mon cabinet qui sont venues me voir pour des problèmes comme ça. On commence en demandant à la personne de s'imaginer dans un endroit clos, ou bien de s'imaginer quand la phobie s'est déclenchée, s'il y a un déclencheur. Et puis on va faire des rondes d'EFT petit à petit et tout doucement pour aller libérer cette peur-là. Mais pour la claustrophobie, je l'ai expérimenté moi-même. Comme je le dis, j'ai pas mal de gens qui sont venus me voir pour ça, puisque les gens savent que ça a été mon cas. Et ça marche très très bien. Déjà, si vous êtes claustrophobe et si vous vous retrouvez dans des endroits style des toilettes publiques ou des tout petits endroits et vous vous sentez pas bien, vous pouvez déjà commencer à faire de l'EFT en continu, comme je l'ai expliqué juste avant. Alors, pouvez-vous nous indiquer des bons livres pour débuter? Sur ce site internet, il y a une partie ressources, puis une partie livres. Et là, nous avons mis des bons livres sur l'EFT pour débuter. Voilà, il y a plusieurs livres qui sont très bons. Pour ne pas faire la publicité plus que d'un que de l'autre, j'en citerai pas en particulier, mais vous pouvez difficilement vous tromper sur les livres sur l'EFT. Ils sont généralement très très bons.
Alors, il y a pas mal de questions. Combien de temps pour tel ou tel problème? Combien de séances C'est difficile à dire, c'est impossible à dire, à prédire à l'avance. Ça dépend, c'est la seule réponse précise, parce que il va falloir trouver le nœud émotionnel qui est à la base de votre problématique, qu'elle soit physique, émotionnelle, mentale. Et parfois, on a de la chance, on tombe dessus tout de suite et ça peut se régler très vite. Et parfois, il faut un peu plus de travail de détective, il faut chercher les différentes racines, les différents aspects, on en parlait tout à l'heure. Et c'est pour ça que c'est impossible de prévoir pour tel ou tel problème combien de séances.
En tout cas,
plus vous en faites, plus ça ira vite.
La bonne dose, c'est de le faire jusqu'à ce que le problème soit réglé. Il y a des problèmes, par exemple, sur le cadre de la claustrophobie. Si un jour, je me suis retrouvée coincée dans un avion en pleine turbulence et que depuis ce jour-là, je suis devenue claustrophobe, alors il est fort à parier qu'en allant travailler sur cet événement très précis, la claustrophobie s'en aille tout de suite. Maintenant, selon les résistances au changement, il est possible qu'il me faille plusieurs séances. Si ce sont des phobies ou des problématiques complexes, comme il faut aller travailler sur un maximum d'aspects de ce problème et un maximum de racines, alors ça sera plus long. Si vous avez une enfance traumatisée et traumatisante, ça sera certainement plus long que de travailler avec quelqu'un qui va très bien et qui a un accident de vie. Donc, ça dépend vraiment des gens, ça dépend des résistances qui se sont mises en place chez la personne pour qu'on n'aille pas toucher ce problème. Généralement, c'est assez court en EFT par rapport à ce qui se passe sans EFT. Mais néanmoins, il faut faire preuve de persévérance. Si on fait 10 séances d'EFT, c'est quand même très très peu et très très bref comme thérapie, quand c'est pris dans un cadre de thérapie. Donc c'est un peu comme le yoga, si on me demandait « j'ai mal au dos, combien de séances de yoga il me faudra pour ne plus avoir mal au dos ?» La réponse est « je ne sais pas ».
L'EFT est-il compatible avec le coaching? Est-ce qu'on peut le faire avec l'hypnose? Est-ce que c'est compatible avec le Reiki? Oui. L'un des grands avantages de l'EFT, c'est que c'est vraiment compatible avec tout ce que vous connaissez déjà, le yoga aussi, comme tu disais à l'instant, Noël. L'EFT peut être un complément. Moi-même, je l'utilise en combinaison avec la sophrologie parce que c'était ma première formation dans le bien-être et ça fonctionne très bien. L'EFT peut venir agrémenter et augmenter n'importe quelle autre pratique. N'hésitez pas à être créatif.
Tout à fait. Disons que l'EFT, c'est un outil. Un outil merveilleux pour lequel on peut se former. J'ai tendance à dire que quand on est psychologue, psychiatre, c'est un merveilleux outil pour un psychologue et pour un psychiatre qui va l'utiliser dans le cadre de son activité. Il y a des médecins qui l'utilisent dans le cadre de leur profession, dans des cliniques. Il y a des psychologues qui utilisent ça pendant leur pratique. Maintenant, quand on est coach, on peut utiliser l'EFT dans le cadre du coaching. Et quand on est une maman, on peut utiliser l'EFT dans le cadre de son foyer, pour soi et pour ses enfants. L'EFT, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé par tous. C'était le souhait de Gary Craig. Notre souhait à travers ce congrès, c'est de pouvoir montrer au monde que l'EFT existe. Et ensuite, c'est à chaque personne, bien sûr, à l'utiliser à bon escient et de l'utiliser à la hauteur de là où il en est. Lui-même. En tout cas, rien ne vous empêche de l'utiliser pour vous, de le tester. Faisons preuve de bon sens. Si vous sentez que l'EFT fait remonter des choses très désagréables en vous et si vous savez que vous avez un passé traumatisant, très traumatisant, à ce moment-là, il est de bon ton d'aller se faire accompagner parce que vous allez vous confronter à des protections qui vous maintiennent votre trauma à distance, ce qui est une excellente chose. Il n'est pas question d'aller lever des protections qui sont très saines en vous. Donc, si vous sentez que l'EFT, ça commence à vous faire quelque chose de désagréable, que vous n'aimez pas du tout en faire parce que vous n'avez pas du tout envie de repenser à certaines parties de votre vie, moi, je vous conseille vraiment de vous faire accompagner. Il y a Marie qui dit « Je déteste mon ex-patron. Comment faire pour retrouver une paix intérieure ?» De travailler sur la relation. C'est-à-dire, c'est vraiment le sujet de cette conférence, c'est penser à votre patron, vous prenez des scènes que vous avez vécu avec votre patron. Si vous le détestez, c'est que vous avez une bonne raison. Vous avez dû vivre avec lui des scènes pas très sympas à raconter. Donc, vous mettez ça par écrit. Et puis, vous commencez à faire des rondes. Même s'il m'a dit ça, tel jour, je m'accepte complètement. Même si je lui en veux, qu'il m'ait dit ça, même si c'est pas normal, même si, qui s'est passé. Et vous faites des rondes de la fille avec ça. Dans mon bonus, je donne un fascicule qui va aider les personnes qui veulent travailler sur leur ancienne relation, justement, ou ça pourrait être le patron actuel. Et vous aurez des pistes pour pouvoir travailler ça.
Mamitine partage en témoignage qu'elle a supprimé ses symptômes de fibromyalgie, qui répond à la question de Ginou. Pour la fibromyalgie, est-ce possible? Oui, oui, nous avons...
On a des cas...
Oui, il y a beaucoup de témoignages de réduction de symptômes, en tout cas.
Beaucoup de témoignages,
et oui. Parfois, disparition des symptômes.
Alors, pour un problème de poids, vaut-il mieux le faire avec un praticien ou peut-on le faire seul? Vous avez une conférence qui sera donnée pendant ce congrès par Karine Barco, justement, qui est une spécialiste de l'accompagnement à la perte de poids et spécialisée dans l'utilisation de l'EFT pour cette problématique. Donc, je vous laisse découvrir sa conférence.
Karine, c'est dimanche soir.
Dimanche soir.
Alors, Chris propose une solution pour le... Mais bon, c'était un ex-patron. Il ou elle dit, j'ai viré mon patron et depuis, je me sens mieux. Bon, ça n'a rien à voir avec l'EFT. Hein. Nous ne cautionnons pas forcément, mais bien sûr, c'est une solution.
Nonopo nous dit, un membre de ma famille me déteste et j'en souffre. Je ne suis plus moi-même face à cette personne. Que puis-je faire? C'est vrai que c'est une situation extrêmement désagréable. L'EFT peut vraiment vous soulager pour autoriser cette personne à vous détester sans vous en souffrir. En fait, si je devais résumer, ça serait ça. Ça serait, l'EFT va vous permettre de reprendre votre propre liberté et laisser la liberté aux autres. C'est-à-dire cette personne, eh bien, qu'elle vous déteste, voilà, c'est son choix, c'est comme ça, elle doit avoir ses propres raisons à elle. Peut-être vous faites un miroir qu'elle n'aime pas d'elle. On est les miroirs des uns pour les autres. Donc, vous pourrez, avec l'EFT, lui laisser ce choix-là, mais vous ne plus en souffrir. J'aime beaucoup Byron Katie, qui est une personne qui fait, ça s'appelle The Work, c'est ce qu'elle propose comme pratique de développement personnel. Et elle nous raconte ça, qu'on est des miroirs les uns pour les autres. Et elle dit, mais une personne ne peut pas vous détester. Ce qu'elle déteste, c'est l'histoire qu'elle se raconte sur vous. Ça peut aider aussi, de se rendre compte de ça. On ne peut pas détester les gens, on déteste l'histoire qu'on se raconte sur les gens. Pas les gens eux-mêmes, puisqu'on ne les connaît pas. Je regarde d'autres questions.
Fouf a posé une question.
Oui.
Que faire quand on ne sait pas dépasser un deuil? C'est autour du deuil.
Autour du deuil.
Qu'est-ce que tu peux dire là-dessus, Noël?
On est tout le temps en train de faire des deuils plus ou moins difficiles à faire. On peut travailler sur le manque avec l'EFT. Même si cette personne me manque, même si la relation me manque, même si je refuse de ne plus être en contact avec... C'est le deuil, si on essaie de faire un deuil trop rapidement, je crois qu'on va se confronter à des résistances et que ça peut être compliqué. C'est tout à fait normal de se sentir infiniment triste si on perd un être cher. Et au départ, en tout cas moi ça m'est arrivé, on n'a pas très envie de faire de l'EFT en période de deuil, en période de perte, quand la perte vient juste d'être vécue. À un moment donné, on peut faire le choix de lâcher son chagrin. Et là, quand on se sent prêt à faire ça, à lâcher son chagrin, on peut commencer à faire de l'EFT sur le manque que l'on ressent et petit à petit se redonner l'autorisation de ressentir du bonheur, de ressentir de la joie dans sa vie, même si cette personne n'est plus là. Ça peut être un deuil d'une personne qui est décédée, mais ça peut être aussi le deuil d'une relation. On se fait quitter, on doit renoncer, on doit accepter que cette relation n'est plus. Ça peut être un deuil par rapport à un objet, par rapport à une maison qu'on est obligé de vendre, un pays qu'on est obligé de quitter. Tout ça, ça fait partie des deuils. Et l'EFT peut vraiment, vraiment, vraiment aider à traverser ces choses-là qui sont difficiles pour certains. J'aurais tendance aussi à dire, c'est mieux de se faire accompagner. Moi, ça fait plus de 10 ans maintenant que je fais de l'EFT. Je suis formatrice en EFT.
Je travaille en cabinet. Encore, bien sûr, je demande à des amis de m'accompagner sur des problèmes que je rencontre, sur des difficultés de vie que j'ai sur mon chemin. Et je crois que ça, c'est assez inévitable. Et de temps en temps, je demande à des amis, à des gens de m'accompagner, de faire de l'EFT avec moi. Il n'y a pas de mal à se faire accompagner. Je crois que ça peut être une nécessité et puis un confort aussi, comme je disais tout à l'heure.
Alors, Marie-Line aussi a posé la question plusieurs fois, mais je répète qu'il n'y a pas une formule, une façon d'utiliser l'EFT pour un trouble spécifique. Le problème de Marie-Line est des troubles sphinctériens. Donc, oui, voilà, je crois que tu as un petit cas à raconter là-dessus, Noël. Il n'y avait pas une dame qui avait du mal à prendre sa voiture parce qu'il fallait toujours...
Oui, c'est ça. J'ai accompagné une personne qui avait un problème de vessie et qui avait tout le temps envie d'aller aux toilettes. Et on a travaillé sur tout le stress que ça a engendré chez elle. Et aujourd'hui, elle a beaucoup moins d'appréhension. Elle réaccepte de prendre la voiture, de faire des longs trajets, même si elle doit s'arrêter 4 fois, 5 fois, 6 fois. Elle a beaucoup moins de peur. L'EFT, essayez-le surtout. Gary nous dit ça, essayez-le surtout, parce que derrière des troubles sphinctériens, il peut y avoir bien sûr un problème mécanique. On ne vous le dira jamais assez. Restez en contact avec votre médecin, allez vous faire faire des diagnostics précis. Il y a des choses qu'on va pouvoir libérer à l'EFT. L'EFT, c'est pas non plus une panacée, c'est pas une baguette magique qui fait pour tout. Mais en tout cas, vous pourrez travailler à l'EFT sur les émotions que déclenche votre maladie ou vos troubles, même si vous pouvez rien y faire, vous pourrez mieux vivre avec. Déjà, ça c'est beaucoup et je sais de quoi je parle. Maintenant, on va remarquer que certains troubles vont pouvoir aussi complètement disparaître. Imaginons que les troubles sphinctériens arrivent suite à un choc émotionnel. Vous avez assisté à un accident de la route et vous avez été profondément choqué par ce que vous avez vu et depuis, vous avez des troubles sphinctériens. Le fait d'aller libérer ce trauma de l'émotion qui est contenue encore dedans va régler les problèmes physiques qui sont des problèmes psychosomatiques. Mais si c'est pas le cas, vous pourrez en tout cas utiliser l'EFT pour pouvoir mieux accepter et vivre avec le corps tel qu'il est aujourd'hui. Je ne sais pas si je suis très claire, mais je le souhaite. Il me semble.
Alors, nous allons devoir fermer la salle.
Regarde, je vois une question à laquelle j'aimerais beaucoup répondre.
Oui,
comment améliorer sa volonté? Justement, on a trop tendance à croire que quand on n'arrive pas à faire quelque chose, c'est parce qu'on manque de volonté. Mais souvent, ce n'est pas un problème de volonté, c'est un problème de résistance et ce qu'on appelle en EFT d'inversion psychologique. C'est-à-dire des programmes inconscients qui font que vous n'arrivez pas à mettre en place ce que vous désirez. Parce qu'il y a un programme qui se met en route tout seul et qui dit « Non, ça, c'est pas bon pour moi, donc je vais faire en sorte que cette personne n'y arrive pas. » Dans le cadre de la perte de poids, je n'arrive pas à me maintenir dans une meilleure alimentation. Je n'arrive pas à faire de sport. Je n'arrive pas... Alors que je le désire profondément, je peux avoir un programme inconscient en moi qui fait qu'à chaque fois que je vais vouloir passer à l'action, quelque chose va me bloquer. Et ça, je crois que Jean-Michel Guéret, cette année, sur le congrès, donne une conférence plus spécifique sur ces inversions psychologiques. Et sa conférence, je crois, s'appelle « Que faire quand l'EFT ne marche pas pour moi ?» Parce que même si... vous avez beaucoup de volonté, si vous avez un programme comme ça en place, la volonté, bien sûr, ne suffit pas à vous libérer et à faire de l'EFT. Donc, là-dessus, travaillons sur les inversions psychologiques. Là, c'est pas trop le cadre d'en parler. De toute façon, je crois que le temps qui m'est imparti se termine.
Donc, oui, nous allons devoir libérer la salle.
L'EFT est bien plus vaste. Oui, bien plus vaste que ce que je viens de raconter là dans cette conférence d'une heure. C'est pour ça que je le disais. Il faut se former, lire, écouter les autres conférences. Vous allez beaucoup apprendre pendant cette semaine. Et il y a beaucoup à apprendre à l'EFT.
Oui.
Mon intention était en tout cas de vous donner l'envie et quelques clés pour pouvoir le pratiquer tout seul rapidement avec des bases assez simples à mettre en place.
Je vois qu'il y a beaucoup de questions qui continuent pour tel ou tel symptôme, tel ou tel malaise. Revenez, je vois l'exemple des nausées. Il n'y aura pas de conférence sur EFT pour les nausées, mais dans chaque conférence, il y a de bonnes chances que vous trouviez quelque chose qui vous aide, pas forcément à surmonter vos nausées, je ne peux pas le garantir, mais qui va diminuer le stress en général dans votre vie. Ça, je peux le garantir, si vous le faites.
Oui, c'est ça, c'est inversion psychologique, c'est bien ça le terme, utiliser un EFT.
Oui, tout à fait.
Voilà, moi j'ai été ravie de vous donner cette conférence. Il y en a 13 autres qui vont suivre.
Voilà, on va libérer la salle parce qu'à 21h, nous avons rendez-vous avec Gaëtan Klein qui nous parlera de comment utiliser l'EFT pour se libérer du tabac, voire d'autres dépendances. Il y a eu une question pour l'alcool tout à l'heure. Cette conférence pourra tout à fait être intéressante aussi pour quelqu'un qui est dépendant à l'alcool, cannabis, autres qui viennent pour venir répondre.
Je vais répondre.
En sachant que c'est aussi la copilote du congrès, donc elle a beaucoup de choses sur le feu.
Je vais essayer de tout faire en même temps.
Merci à tous.
Merci à tous. Merci aux psychologues de témoigner dans le chat que c'est un outil et merveilleux, cette EFT. Merci à vous. Merci à tous. Et à tout à l'heure.
À tout à l'heure. On se retrouve. Alors, il faut aller dans l'autre page et rafraîchir la page. Et ça commence à 21h. Merci.
Merci beaucoup.
À tout à l'heure.
À tout à l'heure. Merci.